Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit Seigneur se faire une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Nos saints anges gardiens, Saint Pidis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Et l'eau se passe bien non plus?
Non, pas ce soir. Bon, mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous sommes en train d'expliquer une petite perle de Saint Pidis, l'encyclique Acerbo Nimis, sur l'enseignement de la doctrine chrétienne du 15 avril 1905. Donc c'est un texte court, hein, il y a quelques pages seulement. Dans l'édition que j'ai, elle fait 5 pages. Elle est facile à comprendre, vous pouvez l'avoir sur internet, donc téléchargez-la. Elle est également sur le site. Sur le site, vous avez accès à tous les textes que j'étudie en ce moment, donc vous aurez Acerbo Nimis qui a été placé sur le site par Guillaume, je vais me le remercier. Il a passé sur le site, et donc vous avez accès, facilement accès à ce texte. Je vous rappelle les points principaux. Donc, lorsque Saint Pidis a essayé de, après avoir expliqué ce qu'est le modernisme dans sa grande encyclique Pascendi Dominici Gregis du mois de septembre 1907, il a donné des conseils de lutte contre le modernisme. Et un de ces conseils, évidemment, c'est l'étude. L'étude selon la philosophie et la théologie de Saint Thomas d'Aquin. Bon. Et Monseigneur Lefebvre nous le disait tout le temps, il y a deux amours qu'il ne faut jamais perdre, surtout pour nous prêtres, mais aussi pour les fidèles. L'amour de la prière et l'amour de l'étude. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un lien entre les deux. C'est mon sermon de dimanche prochain, là, que je vous explique un peu déjà maintenant, en avant-première. L'amour de l'étude et l'amour de la prière sont unis. C'est-à-dire que si je perds l'amour de l'étude, je vais perdre l'amour de la prière. Si je perds l'amour de la prière, je vais perdre l'amour de l'étude. On le voit très bien dans les années 50 en France, 60 en France, après la mort du pape Pie XII, après les affres et les souffrances de la Deuxième Guerre mondiale, les gens ont arrêté de... La plupart des catholiques ont arrêté d'étudier la doctrine traditionnelle de l'Église. Bon. Et du coup, ben, ils ont arrêté de prier. Arrêtant de prier, ben, les Français ont perdu la foi. C'est ce qui s'est passé au cours des années 60, 70. Ça a ouvert la porte à toutes les hérésies actuelles. Après, ils ont gober toutes les hérésies du Vatican II sans rien dire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu l'étude. Perdant l'étude, ils avaient perdu le dogme. Vous voyez, donc il y a un lien entre tout ça. Il faut bien comprendre ces choses-là. Donc celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne, disait saint Alphonse de Ligorie. Donc on a besoin de prier. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, si vous voulez, ça vient d'une paresse spirituelle. La paresse spirituelle, c'est ce qu'on appelle, d'un mot français qui est peu utilisé aujourd'hui, l'acédie. L'acédie, c'est la paresse spirituelle. Et la paresse spirituelle entraîne toujours le dégoût des choses de Dieu. Donc si j'arrête de prier, si j'arrête d'étudier, je vais dégoûter des choses de Dieu. Vous voyez, ça c'est une erreur énorme qu'on entend très fréquemment, y compris parfois dans les milieux de la tradition, à savoir que le catéchisme, c'est pour les enfants. Le catéchisme, c'est pour les adultes aussi. Il y a un catéchisme pour les enfants. C'est sûr qu'il faut commencer à expliquer le catéchisme aux enfants quand ils sont tout petits. Mais il y a aussi un catéchisme pour adultes. Il faut étudier. C'est pour ça que je recommande beaucoup à tous ceux qui m'écoutent sur Internet. Parmi eux, il y en a beaucoup qui connaissent mal leur catéchisme, voire qui ne le connaissent pas du tout. Je reçois régulièrement J'en ai encore reçu un ce matin. Je reçois régulièrement des messages de gens que je ne connais pas, que je ne connaîtrai sans doute jamais, malheureusement, mais qui me disent, voilà, monsieur l'abbé, je ne connais pas du tout mon catéchisme, qu'est-ce que je dois faire? Je leur dis toujours, reprenez d'abord les bases. Les bases, vous les avez sur le site dame-marie.net, mon site internet, la chaîne YouTube, vous avez, pas sur la chaîne YouTube, sur le site lui-même, dame-marie.net, vous avez un cours complet de catéchisme pour adultes, à partir du catéchisme de Saint-Pédis, du catéchisme du Concile de Trente, de la somme théologique de Saint-Thomas d'Aquin. Ça m'a pris un gros travail de préparation de ces cours. Utilisez-les. C'est beaucoup plus facile de prier quand on connaît sa foi. Si je me dessèche au niveau intellectuel parce que je n'étudie plus, ben, je ne vais plus avoir envie de prier. Malheur à celui qui perd l'amour de la prière. Malheur à celui qui perd le désir, qui perd le désir de la prière. Donc, il faut bien comprendre ça. La cédille, c'est à la fois une ignorance, une paresse, un dégoût des choses de Dieu. Quand on se dégoûte des choses de Dieu, ben tout s'écroule. Imaginez quelqu'un qui est trop paresseux pour manger. Imaginez quelqu'un qui est trop paresseux pour boire, qui est trop paresseux pour se nourrir, et qui commence à avoir le dégoût de la nourriture. C'est le problème avec des jeunes surtout, qui ont certaines maladies de ce genre, qui les dégoûtent de la nourriture. Elles n'ont plus envie de manger du tout. Elles pensent qu'à une seule chose, c'est de devenir aussi maigre que possible, et donc elles ne veulent plus manger. Elles se dégoûtent de la nourriture. Eh bien, elles vont mourir. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Alors attention donc à cet amour, cette connaissance, sur l'enseignement de la doctrine chrétienne. Donc il nous faut enseigner la doctrine chrétienne, nous prêtres, vous les parents qui m'écoutez sur internet, vous devez enseigner cette doctrine chrétienne à vos enfants, et surtout leur faire aimer. Le plus difficile c'est pas d'enseigner la doctrine chrétienne, le plus difficile c'est de faire aimer la doctrine chrétienne. Si vos enfants aiment la doctrine chrétienne, vous arriverez à tenir le coup, tous sont dans la foi catholique. Mais si vous n'arrivez pas à faire passer l'amour de la doctrine, tout s'écroule. Et c'est, je pense, ça qui explique ce qui s'est passé en France autour des années 60, c'est-à-dire je l'ai déjà expliqué souvent, mais il faut revenir constamment sur ces choses-là. C'est ce qui explique ce qui s'est passé en France autour des années 60, à savoir le fait que les catholiques, si vous voulez, n'ont plus cherché à étudier. Ils pensaient que le catéchisme c'était pour les enfants, donc ils n'avaient plus besoin d'étudier. Perdant l'amour de l'étude, ils ont perdu l'amour de prière, ils ont arrêté le chapelet, ils ont arrêté, et du coup, bien, toutes les portes de protection de l'âme sont tombées, s'en sont ouvertes, et le démon est rentré à faire ce qu'il veut. Alors, je vous reprends rapidement les textes, les parties saillantes de cette encyclique, parce qu'on n'a jamais toute la première partie. Donc voilà ce que dit Saint Pédis. Donc c'est une encyclique qui est intéressante aussi dans le sens qu'elle est, d'habitude les encycliques, je vous l'ai déjà dit, elles sont adressées directement aux évêques. C'est là en fait elle est adressée aux curés, donc en dessous des évêques. Souvent c'est l'église enseignée qui reçoit les encycliques et qui ensuite enseigne. Ici elle est adressée bien sûr aux évêques, mais en fait elle est surtout adressée aux curés. Donc à l'église enseigne. D'habitude ces encycliques sont adressées directement à l'église enseignante, c'est-à-dire aux évêques. Et ensuite les évêques transmettent. Bon. Ici cette encyclique est en fait d'abord adressée en fait à l'église enseignée, c'est-à-dire aux curés. Les curés, les prêtres, nous simples prêtres, nous sommes l'église enseignée, c'est pas l'église enseignante. Dans la pratique, l'église enseignante, les évêques, le corps épiscopal transmet, donne aux prêtres, aux simples prêtres, aux curés d'abord, puis aux simples prêtres que je suis, comme moi, le pouvoir, la possibilité d'enseigner. Donc les prêtres deviennent dans la pratique, même si en théorie ils ne sont pas église enseignante, dans la pratique ils deviennent corps de partie de l'église enseignante. Voilà ce que dit Saint Pédis. Nous croyons qu'il faut adhérer au jugement de ceux qui attribuent le relâchement actuel des âmes et leur faiblesse avec les maux si graves qui en résultent principalement à l'ignorance des choses divines. Nous affirmons qu'une grande partie de ceux qui sont condamnés au supplice éternel de l'enfer doivent cet irréparable malheur à l'ignorance des mystères de la foi, qu'on doit nécessairement savoir et croire pour être admis au nombre des élus. Quand la dépravation des mœurs et la disparition de la foi, par suite de l'ignorance, se trouvent réunies, il n'y a plus guère de remède et la route est ouverte pour la ruine finale. C'est-à-dire quand on arrête de prier, on arrête d'étudier, c'est la route ouverte pour l'apostasie. Le premier rôle de ceux qui sont préposés d'une façon quelconque au gouvernement de l'Église est d'apprendre aux fidèles les choses saintes. C'est pourquoi le Saint Concile de Trente, donc je reprends les textes qu'on a déjà expliqués. C'est pourquoi le Saint Concile de Trente, Concile de Trente, c'est Saint Pie V, fini par Saint Pie V, donc 16e siècle. Le Saint Concile de Trente, traitant des pasteurs des âmes, déclare que leur premier principal devoir est d'instruire le peuple chrétien. Ensuite, Saint Pie X explique, deux principales obligations ont été imposées par le Concile de Trente aux pasteurs des âmes. L'une d'adresser au peuple les jours fériés des discours sur les choses divines, ça c'est le prône, ce qu'on appelle le prône, c'est-à-dire le sermon du dimanche. L'autre d'apprendre aux enfants et à tous les ignorants les éléments de la loi divine et de leur foi, et de la foi. Peut-être en effet certains prêtres désireux de diminuer leur besogne voudraient se persuader que le prône, c'est-à-dire le sermon du dimanche, peut tenir lieu de catéchèse. Il suffit de réfléchir pour voir que c'est une erreur. Dans la pratique, malheureusement, surtout dans nos chapelles, les milieux traditionnalistes, et c'est les vacantistes, moi c'est ici un problème que j'ai dans la chapelle de Tanus, ici entre Albi et Rodez. Dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne peuvent pas venir plusieurs fois, donc ils vont venir qu'à la messe le dimanche. Et donc il faut tout faire avec le prône du dimanche, c'est-à-dire tout faire avec le sermon du dimanche. C'est la raison pour laquelle j'ai augmenté un peu le temps de mes sermons. Avant je prêchais 20 minutes, maintenant je prêche 25 minutes, voire même une demi-heure le dimanche, parce que j'ai beaucoup de choses à donner et que j'ai qu'une seule occasion pour le faire, c'est le sermon du dimanche. Avant, encore une fois, on verra ça plus tard avec le texte de Saint Pie X, les fidèles qui habitaient autour de l'église, dans les villages c'était comme ça, ils revenaient en début d'après-midi pour le catéchisme pour adultes, il y avait encore une conférence souvent pour avant les vêpres, il y avait des tas d'autres choses qui étaient faites. Donc on ne peut pas faire tout ça. On arrive déjà difficilement à faire venir les gens une fois par semaine le dimanche. Encore souvent, ils ne peuvent pas venir tous les dimanches parce qu'ils habitent trop loin. Il y a des gens qui doivent faire 250 km pour venir à la messe. On en a pas mal qui viennent ici, qui habitent très loin, qui doivent faire 250 km aller pour venir à la messe. On ne peut pas leur demander de venir en plus une fois par semaine pour faire un cours de catéchisme pour adultes. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai mis tout ça sur Internet, pour que les gens puissent avoir sur Internet. Et comme vous avez maintenant les cours sur Internet, sur le site dont je m'occupe, je dirais que vous n'avez plus d'excuses. Et ceux qui m'écoutent, je leur demande de faire un gros effort pour écouter ces cours, travailler ces cours. Pas simplement le cours des actes du magistère que je publie tous les mercredis soirs quand je suis là, mais aussi les autres cours. Donc commencez par les bases, encore une fois, d'abord le catéchisme pour adultes que j'ai mis. Vous pouvez aussi aller avec les explications de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, l'explication des évangiles à partir des pères de l'Église, et beaucoup de choses sur le site. Travaillez, obligez-vous à travailler. Donc, le saint évangile, dit le pape Saint Pie X, s'adresse à des auditeurs qui doivent déjà posséder les éléments de la foi. On peut appeler cela le pain qu'on distribue aux adultes. Mais l'enseignement catéchétique est ce lait dont l'apôtre Saint-Pierre dit que les fidèles doivent le désirer sans artifice comme des enfants nouveau-nés. C'est la raison pour laquelle les gens acceptent à peu près n'importe quoi aujourd'hui. Ils ne font pas attention. Les gens modernes, les catholiques modernes ont perdu le catéchisme. Ils ne connaissent plus du tout la doctrine. La doctrine, si je vous demandais à un catholique moderne, un catholique qui va à la nouvelle messe habituellement le dimanche, est-ce que vous avez déjà lu le catéchisme du Concile de Trente? Bien sûr, ils ne l'ont jamais lu. Est-ce que vous avez lu le catéchisme de Saint Pie X? Bien sûr, ils ne l'ont jamais lu. Ils ont peut-être quelques catéchismes modernes qui ne valent rien du tout, qui leur enseignent des bêtises, et il n'y a plus un qui réagit. Pourquoi? Ils ne réagissent plus parce qu'ils n'ont plus les bases. Ils n'ont plus les bases. Quand je dis, par exemple, aux gens qui viennent me voir, qui ne sont pas de la tradition, ça arrive régulièrement, et je suis heureux de toujours recevoir ces gens-là dans mon bureau, quand ces gens viennent me voir, je me rends très bien compte, ils ne connaissent pas du tout leur catéchisme. Ils ne connaissent pas du tout leur catéchisme. Les premières choses qu'ils font, encore une fois, c'est reprendre les bases. Reprendre le catéchisme, c'est pour ça que l'enseignement de la doctrine chrétienne est tellement important. Alors, continuons avec le texte de Saint Pie X. Donc, encore une fois, là, je reprends à la droite, je me suis arrêté. Donc, parce que je fais toujours la même technique. C'est-à-dire, les premières 10 minutes du cours, je reprends ce qui a été fait avant. Donc, on est dans Acer Bonimis, Saint Pie X, enseignement de la doctrine chrétienne, 15 avril 1905. Voilà ce que dit Saint Pie X. À partir où on s'est arrêté. La tâche du catéchisme consiste à prendre pour sujet une vérité qui se rapporte à la foi ou à la morale chrétienne et à la mettre en lumière sous toutes ses faces. Mais comme le but de l'enseignement doit être la réforme de la vie, le catéchisme comparera ce que Dieu commande de faire et ce que les hommes font dans la réalité. Bon. N'oubliez pas, donc, c'est ce que dit ici Saint-Pédis, le but de l'enseignement catéchétique, c'est la réforme de vie. Ça veut dire, ça sert pas à grand chose de connaître son catéchisme par cœur. Je connais des gens qui connaissent leur catéchisme par cœur, et dans la pratique, ils vivent comme des païens. D'accord? Donc, il faut connaître la foi catholique, mais vivre comme un catholique. Si je pense comme un catholique, mais je vis comme un protestant, qu'est-ce qui va se passer? Si je pense comme un catholique et que je vis comme un protestant, dans la pratique, un jour, je penserai comme un protestant. Et cette phrase, elle n'est pas de moi, c'est une application de la phrase d'Ernest Hello. Il disait ça, il a parfaitement raison. On peut donner des tas d'exemples. Quand je parle aux jeunes filles, surtout confessionnelles, je leur dis souvent, quand elles s'accusent de mal s'habiller, j'ai dit attention, si vous habillez comme une prostituée et que vous pensez comme une catholique, un jour vous penserez aussi comme une prostituée. Pourquoi? Parce que quand la multiplication des actes va changer la façon de penser. Voyez. Donc le but de l'enseignement catéchétique, c'est la réforme de vie. C'est pour ça que dans le catéchisme, il y a plusieurs parties. D'abord, on explique. Le catéchisme traditionnel va expliquer ce qu'il faut croire. Quelle est la prière qui nous explique ce qu'il faut croire? Comment ça s'appelle?
Notre Père.
Non. La prière qui nous donne tout ce qu'il faut croire.
Le credo.
Le credo, exactement. Donc la première partie du catéchisme, c'est le credo. Le credo, c'est tout ce qu'il faut croire. Après, deuxième partie, tout ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui nous explique tout ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui résume toute la loi du bon Dieu? Vous savez ça?
Résume
la loi du bon Dieu.
Notre Père.
Non, notre Père c'est autre chose. Qu'est-ce qui résume la loi du bon Dieu? Si on demande la loi du bon Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que vous répondez?
La charité.
Non. La charité, oui, indirectement. La loi du bon Dieu, c'est les commandements. Oh. Ben oui. Et donc, le credo, la foi, ce qu'il faut croire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel, etc. Après, les commandements. Un seul Dieu, tu adoreras, me rends parfaitement, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne prendras pas la femme de ton prochain, etc. Vous avez les 10 commandements, ça c'est ce qu'il faut faire. Donc d'abord, on étudie la foi, le credo, puis ce qu'il faut faire, les commandements, puis ce qu'il faut désirer. Quelle est la prière qui nous indique tout ce qu'il faut désirer?
Notre Père.
Notre Père, ça c'est vrai. Donc notre Père, c'est tout ce qu'il faut désirer. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite. C'est ce qu'il faut désirer. Donc on croit le credo, on vit selon le credo par les commandements, on garde le désir des choses divines, la prière, c'est donc le Notre Père, ce qu'il faut désirer. Et la dernière partie du credo, c'est quoi? Il faut des moyens pour mettre tout ça en pratique. Qu'est-ce qui va nous donner la grâce nécessaire pour mettre en pratique tout ça? Comment on reçoit la grâce?
La communion.
Oui, la communion, c'est quoi?
Sacrement.
Voilà, donc la dernière partie du cours, c'est quoi? Les sacrements. Donc, dans un catéchisme traditionnel, il y a 4 parties. Le credo, les commandements, notre Père et les sacrements. Le credo, tout ce qu'il faut croire. Le commandement, tout ce qu'il faut faire. Le notre Père, tout ce qu'il faut désirer. Les prières, donc. Et le moyen de tout mettre en pratique, les sacrements. Là, vous êtes tout à fait catholique. C'est comme ça qu'est divisé le catéchisme du Concile de Trente, et c'est comme ça qu'est divisé aussi le catéchisme de Saint-Pédis. Vous voyez?
Avant, il y avait les questions et les réponses.
Mais oui, mais ça suit cet ordre-là. Dans le catéchisme moderne, c'est du n'importe quoi. Parce que justement, ils n'ont plus ces bases. Ils n'ont plus ces bases, et du coup, ben, petit à petit, les gens ont perdu la foi, d'autant plus, ils ont perdu la foi d'autant plus rapidement qu'ils ne connaissent pas la doctrine. Bon. Quand je dis aux gens qui me disent, monsieur l'abbé, il y a quand même des choses dans ce que dit Bergoglio à Rome aujourd'hui qui sont ahurissantes, je dis oui, c'est exact, vous avez parfaitement raison de me dire ça, et ça vient de Vatican II, et le Vatican II dit des choses aussi complètement ahurissantes, et ça les gens le savent moins, et je dis, est-ce que vous savez que toutes les erreurs de Vatican II ont déjà été condamnées par le pape Saint-Pédis en 1907, c'est-à-dire 60 ans avant 60 ans avant le Concile Vatican II, Saint Pie s'est donné la peine de condamner tout ce qui allait être enseigné par l'Église de Vatican II à partir de 62-65 au Concile Vatican II. Les gens ne savent pas tout ça. Et quand je leur dis ça, ils me regardent avec des yeux ronds, ils disent, mais monsieur Adler ne vous a jamais dit ça, mais c'est le problème. C'est pour ça que, faites attention pour ceux qui ont écouté le cours sur le Vachemdi de Magnificat, la condamnation du modernisme que j'ai expliqué en long, en large et en travers pendant 40 ou 50 cours, bien comprendre que ces idées que Saint Pie condamne en 1907, il ne les condamne pas comme ça dans les nuages. S'il les condamne en 1907, c'est parce qu'il sait très bien qu'elles vont arriver. En 1907, elles ne sont pas encore officiellement enseignées. Quand est-ce que ces idées hérétiques vont être officiellement enseignées? C'est avec le Concile Vatican II. Le Vatican II, c'est quand? 62-65. Qu'est-ce qui résume toutes les erreurs de Vatican II? Si vous voulez résumer toutes les erreurs de Vatican II, qu'est-ce qu'il faut dire comme mot? Les erreurs de Vatican II, c'est l'homme qui prend la place de Dieu, tout simple. Et ça se traduit par trois mots, liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Qui est-ce qui a concocté ces trois mots? C'est la franc-maçonnerie, ça c'est 1917. 1717, fondation de la franc-maçonnerie, avec ces trois mots, liberté, égalité, fraternité. Quels sont les trois mots qui caractérisent l'Église catholique et l'enseignement catholique? Pauvreté, chasteté, obéissance. Donc d'un côté, vous avez pauvreté, chasteté, obéissance. De l'autre côté, vous avez liberté, égalité, fraternité. Pauvreté, chasteté, obéissance, ça nous monte vers le bon Dieu. Égalité, liberté et fraternité, ça nous fait descendre vers l'homme. Donc c'est incompatible. Et ce qu'il faut que les gens comprennent impérativement ça, c'est que les erreurs de Vatican II ont déjà été condamnées par Saint Pie X en 1907 et qu'elles avaient déjà été condamnées par Pie IX en 1854 avec le syllabus. C'est pour ça que j'ai commencé par le syllabus, le libéralisme, puis après je suis allé dans Pascendi Dominici Gregis Saint Pie X, et maintenant on peut appliquer ça. Et si on comprend pas, si on dit bon très bien, moi je suis entièrement d'accord avec Saint Pie X, mais en même temps je veux accepter Vatican II, c'est impossible. Vous pouvez pas accepter Vatican II et accepter Saint Pie X en même temps. Il y a un des deux qui est passé par la fenêtre, hein. Puisque Saint Pie X dit le contraire de Vatican II et Vatican II dit le contraire de Saint Pie X. Mais bien sûr. Qu'est-ce que dit Vatican II? Vatican II, c'est l'homme. Mais oui, c'est ça, Vatican II. Vatican II, c'est le culte de l'homme. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit. Paul VI l'a dit. Nous, plus que tout autre, nous avons le culte de l'homme. A dit Paul VI. Ça veut dire c'est quoi? C'est le culte de Dieu. On n'a pas de culte de l'homme. Qu'est-ce qui résume toutes les erreurs de Vatican II? La phrase classique, les droits de l'homme. Qu'est-ce qui résume le catéchisme catholique traditionnel? Le catéchisme catholique traditionnel, lorsque je donne un catéchisme de Saint Pie à un débutant, un adulte, je lui dis voilà un livre qui va vous expliquer les droits de Dieu et les devoirs de l'homme. Vatican II nous donne quoi? Les droits de l'homme et les devoirs de Dieu. Donc soit les droits de l'homme, Vatican II, liberté, égalité, fraternité, soit les droits de Dieu avec pauvreté, chasteté, obéissance. Vous voyez, et tout vient de là. Il faut absolument comprendre ça.
Mais il faudrait déjà que les enfants aillent au catéchisme.
Je suis entièrement d'accord avec vous, maman. C'est vrai qu'il faut que les enfants aillent au catéchisme. Mais si vous n'avez pas les parents qui vont au catéchisme et qui connaissent, qui poussent les enfants, à quoi ça sert? Moi, j'ai remarqué une chose, ça je l'avais vu quand j'étais tout jeune prêtre. C'est une première chose que j'ai constatée dans mon apostolat de jeune prêtre. J'étais à 79, j'étais à l'étoile du matin dans l'est de la France. J'ai tout de suite compris ça je ne savais pas avant de rentrer au séminaire. Je me suis aperçu que donner le catéchisme aux enfants, si on n'a pas catéchisé les parents avant, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, si on catéchise les adultes, les parents, si vous apprenez la foi aux parents, les parents vont après comprendre l'importance de leur devoir d'État et vont commencer à catéchiser les enfants ou directement ou les faire catéchiser par un bon prêtre. Par contre, si vous catéchisez un enfant, vous pouvez avoir les enfants catéchisés pendant des années, vous leur enseignez la foi catholique, mais si les parents ne donnent pas le bon exemple, qu'à quoi vous servez à rien? C'est les questions que nous posent les gamins. Qu'est-ce que je fais moi en tant que prêtre quand un gamin de 6 ans à qui j'explique l'importance de la confession, et j'explique à l'enfant pourquoi il faut se confesser régulièrement, pourquoi on a besoin de communier, pourquoi la communion est tellement importante. L'enfant me regarde droit dans les yeux, me dit, monsieur l'abbé, pourquoi mon papa à moi, il se confesse jamais? Ben, je dis quoi, moi? Pourquoi mon papa, mes parents à moi, ils se communient jamais? Ils m'envoient à la messe, ils vont à la messe avec moi parce que pour que j'y aille, mais ils communiquent jamais ce qu'on fait jamais. Et à chaque fois qu'ils sortent de la messe, première chose que j'entends, c'est les critiques du sermon qui a été trop long, la messe qui est trop longue, et la belle fille qui a trop parlé. Voilà ce que j'entends. Bon. Comment voulez-vous qu'un enfant comme ça puisse conserver la foi? C'est impossible. Donc l'expérience m'a montré, c'est la première chose que j'ai fait comme jeune prêtre, à l'étoile du matin, je me suis retrouvé avec l'obligation de catéchiser quelques adultes. Une personne adulte qui s'est mariée après, plus tard, j'ai complètement perdu contact avec elle. Elle s'appelait Myriam. Bon, je ne sais pas quel âge elle a, elle doit avoir la soixantaine peut-être maintenant, aujourd'hui, ou 55 ans. Mais j'ai dû donner un catéchisme pour adultes. Et à ce moment, je me suis aperçu que j'avais rien entre les mains pour donner un catéchisme pour adultes. Parce que j'avais bien un catéchisme de Saint-Pédis, mais j'avais besoin de quelque chose de plus compact pour résumer le catéchisme de Saint-Pédis, qui était déjà un résumé du catéchisme du Concile de Trente. Donc, première chose que j'ai dû faire, c'est faire un petit catéchisme, une vingtaine de pages, avec toutes les bases. Et c'est ça que j'ai donné à des gens qui venaient me voir et qui n'avaient pas la foi du tout, ou qui avaient complètement perdu la foi, ou qui l'avaient jamais eu, ou qui l'avaient oublié. Et ce catéchisme que j'ai dans mon ordinateur, qui fait une vingtaine de pages, je l'utilise encore régulièrement. Régulièrement, je reviens dessus pour vérifier un truc, pour l'utiliser dans un cours. Vous voyez? Et donc c'est ça. Donc, c'est une phrase très importante de Saint-Pédis. Le but de l'enseignement, c'est-à-dire le but du catéchisme, parce que c'est ça dont il parle, le but de l'enseignement de Dieu, l'enseignement de la foi par le credo, de ce qu'on doit faire par les commandements, de ce qu'on doit désirer par l'étude de la prière et du Notre Père, et des moyens de tout mettre en pratique, c'est-à-dire les sacrements, le but de l'enseignement, c'est la réforme de vie. Ça veut dire quoi, une réforme de vie? Réforme de vie, ça veut dire sortir du péché. C'est ça que ça veut dire, réforme de vie, c'est ça, c'est autre chose. Le plus important, c'est la conversion du cœur. C'est ce que disait Mademoiselle Quenette. J'ai cité ça dans un sermon un dimanche dernier, je crois, il y a 15 jours. Le plus important, c'était comme ça que commençait son magnifique règlement pour les enfants. Mademoiselle Quenette est peu connue, c'est bien dommage. Elle est morte en 1977. Moi, j'ai malheureusement jamais pu la rencontrer. Alors, j'avais rendez-vous avec elle en août 77, elle est morte en juin 77, donc j'ai pas pu la voir. Mais Monseigneur Lefebvre la connaissait très bien. Et il appelait l'école de la Pérodière. Il y a deux écoles à ce moment-là, une école de la Pérodière près de Lyon pour les garçons et une école à Malvière pour les filles. Eh bien, Monseigneur Lefebvre appelait l'école de la Pérodière mon petit séminaire. Et elle avait un règlement qui est une merveille pour les enfants. Et le premier article du règlement de l'école, le plus important, c'est la conversion du cœur. Premier article. Deuxième article, je suis convaincu que le péché est l'unique vrai mal. Et là-dedans, il y a tout. Je suis convaincu que le plus important, c'est la conversion du cœur. C'est ce que dit Saint-Pédis. Le but de l'enseignement, c'est la réforme de la vie. C'est pour ça que j'ai tenu à avoir ma première messe chantée. Ma première messe chantée, je l'ai dit à l'école de Malvière. Les filles de l'école m'ont chanté la messe. C'était en juillet 1979. Donc ça ne date pas d'hier. Hein, c'est vieux. Mais c'est comme ça. C'est pour ça que cette phrase de Saint-Pédis, c'est capital. Le but du catéchisme, c'est la réforme de vie. C'est-à-dire, si j'étudie mon catéchisme, si je connais mon catéchisme, et que je ne cherche pas à vivre en état de grâce, ça sert à quoi? C'est-à-dire que je n'ai rien compris au catéchisme. Il y a des gens qui connaissent par cœur les commandements de Dieu dans l'ordre et dans le désordre. Mais s'ils ne vivent pas selon ces commandements, ça veut dire quoi? Ça sert à quoi? Vous voyez? Donc, le plus important, c'est de vivre selon sa foi. Si je connais mes commandements par cœur, si je connais mon catéchisme par cœur, mais que je vis comme un parpaillot, un jour, je vais penser comme un parpaillot. Et c'est ce qui se passe actuellement, c'est ce qu'on voit partout. Et ça a entraîné l'apostasie complète. Si je ne pense pas, si je pense comme un catholique et que je vis comme un païen, un jour, je vais penser comme un païen. Si je commence à penser comme un païen, évidemment, il y a un lien entre les deux. Donc, je pense comme un catholique, mais je vis comme un païen. Deuxième étape, ma foi comme catholique va disparaître. Je pensais comme un païen et vivre encore plus comme un païen. À chaque fois, on descend d'un cran. Et du coup, ça entraîne l'apostasie. Donc, première étape, je pense comme un catholique, je vis comme un païen. Deuxième étape, je pense comme un païen, donc je vis comme un parpaillot complet. Troisième étape, apostasie. Je perds la foi complètement. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe, ce qu'on voit actuellement. Donc, le but de l'enseignement doit être la réforme de vie. Il faut vivre en état de grâce. Et pour ça qu'une des choses les plus importantes, c'est la confession. pousser les jeunes à la confession. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Je vais commencer en principe le mois prochain. J'espère pouvoir commencer enfin ce que je vais faire depuis longtemps, une espèce de tiers-ordre, une espèce de petit tiers-ordre ici pour la paroisse. J'ai déjà retrouvé les textes anciens qui étaient sur mon ordinateur depuis longtemps, parce que j'avais déjà fait ça avec le tiers-ordre de la Fraternité Saint-Pédis. Quand j'étais dans la Fraternité Saint-Pédis, j'avais fait ça aussi au Mexique et dans d'autres pays, en Espagne aussi, dans d'autres pays. Je vais reprendre ça un petit peu pour essayer de demander à tous les gens qui ont fait la retraite avec moi, il y en a pas mal, les gens qui ont fait la retraite avec moi, de venir quand ils le peuvent. Je vais les réunir une fois par mois à la chapelle, à Tanus, là où il y a la chapelle, pendant de 9h30 le matin à 1h de l'après-midi, un samedi par mois. Vous voyez, pour leur donner un petit coup de feu. Oui, on est un peu froid, donc on retourne un peu le gaz pour les réchauffer un peu sur le plan spirituel. Donc on va commencer par une méditation au cœur, à la chapelle, si c'est pas trop froid. On fera une méditation à la chapelle, une demi-heure, puis la messe. Puis, on dira, je leur donnerai une petite conférence sur la vie spirituelle, puis un chapelet, puis une petite conférence de doctrine, et puis un repas tiré du sac. Vous voyez, pour que les gens se réunissent et que ça leur donne un petit coup de feu pour les aider à tenir le coup, arriver à conserver la foi. Vous voyez. Donc encore une fois, ça suffit pas de connaître son catéchisme. Il faut vivre selon le catéchisme. Sinon, ben regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les gens maintenant sont capables d'accepter des horreurs de Bergoglio à Rome, mais des horreurs. C'est plus que des inepties, c'est des hérésies complètes, c'est apostasie complète, hein, de Bergoglio à Rome, François à Rome, et les gens disent plus rien. Les gens disent plus rien. Vous voyez, au Moyen-Âge, un pape qui aurait dit, les différentes religions de la terre sont différents moyens de parler à Dieu. Donc vous pouvez aller au même Dieu par n'importe quelle religion. Mais qu'est-ce qu'ils auraient dit, les catholiques en France, par exemple, au Moyen-Âge, si un pape avait parlé comme ça? Allez chercher le bois, le feu, on fait un feu, on met ce gars là-dedans, parce qu'ils auraient compris, mais c'est de l'hérésie ça. Maintenant on peut sortir des imbécilités pareilles, plus personne ne bouge, les personnes ne bougent pas, peu de gens ont bougé. Les évêques ne bougent pas. Qu'est-ce qui a bougé parmi les évêques? Il y a Monseigneur Vigano, hein, maintenant il y a Monseigneur Strickler, qui est l'évêque de Tyler, je crois, au Texas, Monseigneur Vigano a bougé, pour se plaindre justement des hérésies du pape. Il a été excommunié par François à Rome. Après, c'est Monseigneur Strickler, qui était l'évêque de Santonio Tyler au Texas. Je crois que c'est Tyler au Texas. Lui, pareil, il va vite se faire excommunier aussi, parce qu'il commence à essayer d'ouvrir les yeux et de ses confrères évêques en disant, mais attention, ça va plus du tout, on raconte n'importe quoi. Oui, et donc il faut faire attention. Donc la réforme de vie, c'est quoi? Vivre en état de grâce. Si je connais mon catéchisme et je ne vis pas en état de grâce, c'est quelque chose qui ne va pas. Le catéchisme, c'est ça qu'il faut comprendre. Le catéchisme doit m'aider à vivre en état de grâce. Donc, un catholique, c'est quoi? Est-ce qu'un catholique, on peut définir un catholique comme quelqu'un qui connaît son catéchisme? Non, il manque quelque chose à ma définition. Un catholique, c'est quelqu'un qui connaît son catéchisme et qui vit selon son catéchisme. Voilà un exemple plus facile. Est-ce qu'un catholique, c'est quelqu'un qui connaît par cœur les 10 commandements de Dieu? Ça suffit pas. Un catholique, c'est quelqu'un qui connaît par cœur les 10 commandements de Dieu et qui les suit dans sa vie de tous les jours. Parce que si vous connaissez les 10 commandements de Dieu et que vous ne les suivez pas dans la vie de tous les jours, ça sert à quoi? Elle est où la foi là-dedans? Et c'est ça le drame. C'est ça le drame. Les gens connaissent leur catéchisme, connaissaient leur catéchisme aux deux années 60, les gens connaissaient à peu près leur catéchisme, mais ils ne vivaient plus selon leur catéchisme. Ils n'étaient plus sur leur catéchisme et donc ils se sont plus du tout préoccupés de la réforme de vie. Et moi je le vois très bien dans les exercices Saint-Ignace, on est obligé de commencer par cela. En ce moment, c'est l'exercice Saint-Ignace, le système établi par Saint-Ignace sous l'ordre de la Sainte Vierge au XVIe siècle. Et bien la première chose qu'on commence par faire, c'est d'abord on explique le but de la vie. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver son âme. Et vous êtes sur la terre pour sauver votre âme, monsieur. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut louer, honorer, servir, ça veut dire quoi? Obéir. Donc j'explique, vous voulez sauver votre âme, il faut obéir aux commandements de Dieu, les connaître et obéir à ces commandements. Et pendant 2 jours et demi, on prépare les gens à une bonne confession générale. Une fois qu'on a fait les confessions générales, en commençant, on a fini d'éblayer le terrain, à ce moment-là, on peut commencer autre chose. On peut commencer la réforme de vie, voir les résolutions de retraite, apprendre aux gens à méditer. On a déjà commencé la première partie. Deuxième partie, c'est ça. Ça va être les grandes méditations sur le Christ roi, les deux étendards, les trois classes, etc. Où on apprend à mettre le bon Dieu à la place numéro, la place principale dans notre âme. Vous voyez? Tout ça, c'est très important. D'ailleurs, à ce propos-là, attention, les cinq premières retraites, des retraites que je prêche en 2025 sont pleines. 1, 2, 3, 4, 5, c'est plein, donc il reste que de la place pour les trois dernières retraites. Deuxième retraite de septembre et deux retraites d'octobre, c'est tout. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des documents. Là, je commence à recevoir de nouveau des retraites. On est à 40 retraitants, je crois, j'ai plus que 8 places. Hein. Donc ceux qui m'écoutent sur Internet, qui veulent suivre les exercices avec moi, dépêchez-vous, hein, parce qu'il ne reste plus que 8 places pour les 8 retraites. Les 5 premières sont pleines, il reste quelques places pour retraites 6, 7 et 8. Attention. Donc, je continue ce texte. Comme le but de l'enseignement catéchétique doit être la réforme de la vie, le catéchiste comparera ce que Dieu commande de faire et ce que les hommes font dans la réalité. Ceci me fait penser à un détail que nous donnait Mgr Lefebvre. Mgr Lefebvre nous disait très bien, lui, il était, avant de devenir évêque, il était dans la société des spiritains, qui a été fondée par le père Liberman, refondé par le père Liberman, Claude Poulard des places au début, puis le père Liberman après, et il était missionnaire au Gabon. Et j'ai connu je suis allé dans les paroisses où était Mgr Lefebvre quand il était, ben, je suis allé bien plus tard que ça, lui était déjà évêque en France depuis longtemps, mais je suis allé visiter les paroisses où il était comme vicaire, comme petit curé, jeune missionnaire. Eh bien, on le voyait très très bien dans tous ces endroits. Les gens disaient, on voyait que là, donc les catéchistes expliquaient les mystères de la foi, et les gens, les petits noirs qui et les adultes qui apprenaient le catéchisme avec les catéchistes, ils voyaient les prêtres vivre. Et c'est en voyant les prêtres vivre qu'ils se rendaient compte que la foi chrétienne était la véritable foi. Parce que par exemple, les gens là-bas étaient dans l'animisme le plus complet, dans les péchés, ils se vautraient dans les péchés d'impureté avec toutes les femmes qu'ils voulaient, le mépris de la femme, même actuellement au Gabon, à mon avis c'est encore le cas, ils peuvent choisir quatre femmes s'ils veulent, hein. Ils ont le droit de se marier avec quatre femmes ou une comme ils veulent, donc ils cochent ce qu'ils veulent au cas où, donc ils cochent tous les la case des quatre femmes, et Mgr Lefebvre nous expliquait, justement, la meilleure prédication, c'était pas la prédication des catéchistes, c'était l'exemple de vie, l'exemple de vie des prêtres. Et la première chose que quand les gens rentraient dans la maison des prêtres, il y avait des maisons dans la brousse où les prêtres donnaient catéchisme, il y avait une chapelle à côté, il y avait parfois les chambres des prêtres, etc. Ils nous disaient, mais les païens qui étaient en train de se convertir ou les jeunes convertis, ils rentraient dans la maison et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient sous les lits pour trouver les femmes. Ils regardaient sous les lits pour trouver les femmes. Où sont les femmes du prêtre? Et alors les prêtres disaient, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous cherchez? Ben je cherche les femmes avec lesquelles vous vivez. Il n'y a pas de femmes, on ne vit pas avec des femmes. Est-ce que le prêtre est sous votre chasteté? À ce moment-là, ils ont réalisé, vous vivez sans femmes? Ben oui. Comment vous faites? On a les grâces du bon Dieu. Mais c'est pas possible de vivre sans femme. Bien sûr, l'Église l'a demandé à ses prêtres depuis 2000 ans. Et à ce moment-là, ces païens se rendaient compte si cette religion a tellement de force qu'elle permet à ses ministres de vivre sans épouse, alors ce doit être une religion, la religion du bon Dieu. Et du coup, il y avait des conversions. Il y avait des conversions. Et beaucoup de jeunes filles aussi, était, disait Mgr Lefebvre, était tenté par la vie religieuse. Et Mgr Lefebvre, une des premières choses qu'il a dû faire, c'est ouvrir des couvents, justement, des couvents, justement, dans ces pays-là, en Côte d'Ivoire après, au Sénégal aussi, et puis au Gabon tout à fait au début, d'ouvrir des couvents, parce que des jeunes filles qui se rendaient compte, dans le monde dans lequel elles vivaient, le monde tribal dans lequel elles vivaient, la femme était considérée comme moins que rien, la femme est une esclave, bonne à aller planter les bananes, cueillir les bananes, point c'est tout. Ça servait à rien, une bonne femme, elle était là pour travailler, était considérée comme une esclave. Et quand elle voyait la façon dont les prêtres traitaient les sœurs religieuses, il y avait des sœurs blanches qui étaient là, quand elle voyait la façon dont les sœurs vivaient, la chasteté, la dignité de ces sœurs blanches, elle voulait voir les sœurs, et elle disait aux sœurs, ma sœur, moi je veux venir comme vous, parce que les hommes vous respectent, parce que vous, vous avez une dignité, les femmes dans ma tribu, elles sont considérées comme moins que rien par les hommes. Et ça a été un travail de conversion extraordinaire. Et le travail de conversion, il s'est fait parce que les païens voyaient la façon de vivre des prêtres. C'est ce que dit Saint-Philis. Le catéchisme comparera donc ce que Dieu commande de faire et ce que les hommes font dans la réalité en mauvais et en bon. Le catéchisme aidera les enfants, les adultes qui suivent le catéchisme à comprendre que ce catéchisme doit passer dans la vie de tous les jours. Puis profitant des exemples qu'il aura su tirer à propos soit des Saintes Écritures, soit de l'histoire ecclésiastique ou de la vie des saints, le catéchiste expliquera aux auditeurs et leur montrera, pour ainsi dire du doigt, comment ils ont à régler leur conduite. Il terminera par une exhortation qui puisse leur faire détester et fuir les vices et leur faire suivre le chemin de la vertu. Donc quel est le but du catéchisme? Aider les gens à régler leur conduite, pratiquer une réforme de vie, détester et fuir les vices pour se mettre et suivre le chemin de la vertu. Donc, le but du catéchisme, réforme de vie, changer de vie. Vous voyez, donc, c'est pour ça que c'est tellement difficile, que la foi catholique n'est pas quelque chose de facile dans ce sens-là. Parce que, c'est pour ça qu'il y a même des empereurs romains, au moment des premières conversions des empereurs romains, qui ont attendu très très longtemps avant de demander le baptême. Parce qu'ils se rendaient bien compte que demander le baptême, ben, ça veut dire changer beaucoup de choses dans leur vie de tous les jours, entre autres au niveau de la conquête féminine. Et donc, ils attendaient. Il y en a qui se faisaient baptiser sur leur lit de mort, littéralement. Et parfois, ils étaient trop tard, ils étaient déjà morts quand ils devaient être baptisés. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils attendaient le plus longtemps possible. D'abord, parce qu'ils disaient, j'attends le plus longtemps possible, parce que je peux faire plein de péchés, puisque le baptême, ça efface tous les péchés, j'attends le plus longtemps possible. Mais en fait, c'est aussi pour ça, parce qu'ils se rendaient bien compte. Vivre en chrétien, ça veut dire changer de vie. Changer de matière de vie. Donc c'est facile de prêcher le catéchisme. Mais d'obtenir que les gens vivent selon le catéchisme, là c'est beaucoup plus difficile. Donc comment on juge? Vous voyez, moi je disais toujours ça quand je donnais des sermons dans les écoles, surtout aux jeunes filles, parce que j'ai donné des sermons à l'école dominicaine dans le nord de la France, j'y allais une fois par mois pour prêcher là-bas et confesser un peu. À la demande de mes supérieurs, et c'est pas le Héry la Vieille Ville, bon, c'était près de Saint-Quentin, dans l'Orge, j'en avais plus le nom du couvent. Et je disais aux jeunes filles, surtout aux grandes, je disais, vous savez, moi je vous juge absolument pas sur la façon dont vous suivez la messe, ça veut absolument rien dire. Je vous juge sur votre façon de vivre quand vous rentrez à la maison pendant les vacances. Je dis, vous pouvez avoir toute la foi que vous voulez, si vous ne mettez pas votre foi en pratique, eh bien, on perd son temps. Parce que j'avais remarqué, les sœurs m'en avaient dit, les parents, et je m'avais bien remarqué, parce que j'avais ces jeunes filles, je les avais aussi comme paroissiennes dans ma paroisse quand j'étais à Lille. Elles venaient beaucoup de ces couvents-là, de ces écoles-là. Je me rendais bien compte qu'elles connaissaient leur catéchisme très bien, mais elles vivaient comme des païennes. Il fallait voir, elles rentraient le vendredi soir et dès le samedi soir, elles étaient souvent en boîte de nuit avec leurs frères, leur grand frère d'ailleurs qui les poussait à aller en boîte pour sortir, se détendre un peu, et du coup, ben, elles perdaient l'état de grâce très vite. Vous voyez? Et c'est ça que j'essaie de leur expliquer. Je dis, mais si vous connaissez votre catéchisme et que vous ne vivez pas selon votre foi, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Vous êtes des révolutionnaires, je dis, vous êtes des révolutionnaires parce que vous prétendez avoir la foi, vous connaissez la foi catholique et vous ne vivez pas selon votre foi. Et j'ai déjà donné l'exemple plusieurs fois, donc je ne vais pas revenir avec les détails, mais dès qu'elle montait dans le train, qu'elle est ramenée à Lille ou à Paris, le vendredi soir, elle était interne, donc elle rentrait chez elle le vendredi soir pour soit sur l'île, soit sur l'île Flandre, soit à la Gare du Nord à Paris. Et dès qu'elles étaient dans le train, les sœurs étaient reparties pour retourner à l'école, elle montait dans le train, la première chose qu'elle faisait, c'est se changer dans les toilettes pour s'habiller comme des filles modernes. Elle se remettait en mini-jupe ou en petit pantalon jean moulant, parce qu'elles étaient de nouveau dans le monde. Et je leur disais, je ne juge pas une fille de l'école selon sa façon d'assister à la messe le dimanche, parce que La façon d'assister à la messe le dimanche, ou quand j'allais dans cette école pour donner la messe en semaine, eh bien, on avait l'impression d'avoir des anges devant nous, c'était magnifique. Et tout avec une petite voilette blanche sur la tête, c'était on avait l'impression de prêcher à des anges. Des anges, vraiment des anges. Et le samedi, quand elle est rentrée chez elle, elle vivait comme les gens du monde. Elle s'habillait comme les gens du monde. Et donc, pour ces jeunes filles, c'était terrible parce qu'on sentait très bien qu'il y avait deux sortes de vie. Il y avait la vie du dimanche, de 10h à 11h30, on est catholique, on vit comme des catholiques, on s'habille comme des catholiques, on essaie de penser comme un catholique, on étudie la foi catholique, et résultat, on vit comme des païens. Sauf quand on est avec les sœurs pendant la semaine, parce que là, on ne peut plus vivre comme des païennes, c'est pas possible parce que les sœurs nous surveillent. Et donc, elles avaient la vie à l'école où elles vivaient extérieurement comme des catholiques. La foi, le dimanche, c'était plus ou moins impeccable extérieurement, mais dès le samedi toute la journée, elles vivaient comme des païennes. Et dans la pratique, elles vivaient comme des païennes. Elles ne vivaient pas en état de grâce, souvent, malheureusement, parce que justement, elles n'avaient pas compris que la foi catholique, c'est d'abord une praxie. Ça veut dire quoi, une praxie? C'est quelque chose qui se pratique dans la vie catholique. Dans la vie de tous les jours, c'est pas simplement connaître par cœur le catéchisme, c'est vivre cette foi catholique. Et c'est là ce qu'explique Saint Pétis. C'est pour ça qu'il dit le but de l'enseignement, c'est la réforme de vie. Alors, je reprends le texte de Saint Pétis. Donc, il termine, il dit, voilà, il explique bien les choses là. C'est très beau son texte. Le catéchisme exhortera pour faire détester et fuir le vice, va faire suivre le chemin de la vertu. Nous savons bien, dit Saint Pédis, que cet enseignement de la doctrine chrétienne déplaît à beaucoup, sous prétexte qu'il est médiocrement estimé d'ordinaire et peu fait pour gagner les faveurs du public. Cette appréciation de notre vie est celle d'hommes qui prennent pour guide la légèreté plutôt que la vérité. Nous ne refusons pas notre juste approbation aux orateurs sacrés qui, par un zèle sincère pour la gloire de Dieu, s'emploient à venger et à défendre la foi ou à louer les saints, mais leur travail demande un autre travail préalable, celui des catéchistes. Si ce dernier, le travail des catéchistes, fait défaut, les fondements font défaut, et c'est en vain que travailleront ceux qui bâtissent cette demeure. Ça veut dire quoi? Si vous bâtissez votre demeure spirituelle sur le sable, tout s'écoule. Vous voyez? Donc d'abord et avant tout, faire vivre les gens selon les commandements du bon Dieu. Quand Dieu dit « tu ne mentiras pas », il faut que ça passe dans la pratique. Quand Dieu dit tu ne désireras pas la femme du prochain, eh bien il faut que ça passe dans la pratique. Quand Dieu dit tu ne tueras pas, mais il faut que ça passe dans la pratique. Quand Dieu dit tu adoreras un seul Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, il faut que ça passe dans la pratique. Quand Dieu dit tu aimeras ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu, ben ça veut dire qu'il faut aider le prochain à monter dans l'amour devant Dieu et pas respecter le prochain la vie de païen qui veut mener. Vous voyez? Ça, ouais, tout ça, c'est des textes tout simples. C'est très différent comme style du style de Pachandi qui a été écrit 2 ans plus tard. Ça, c'est un texte facile. Après, écoutez ce qu'il dit. Je répète. Si le travail des catéchistes fait défaut, les fondements font défaut, c'est en vain que travaillent tous ceux qui bâtissent la demeure. Très souvent, trop souvent, il arrive que des discours très élégants, accueillis par les applaudissements d'un auditoire très nombreux, n'aboutissent qu'à chatouiller les oreilles sans remuer les cœurs. Chatouiller les oreilles sans remuer les cœurs. Au contraire, une instruction catéchétique, bien que modeste et simple, sera cette parole que Dieu lui-même exhale par la voix d'Isaïe, comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, mais abreuvent la terre, la fécondent et la font germer, fournissent la semence au semeur et le pain à l'affamé, telle la parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais elle accomplira tout ce que je voulais et produire les fruits pour lesquels je l'ai envoyé. Vous voyez, ça, tout ça, c'est absolument important. On le voit dans les catéchismes du Saint-Curé d'Ars. Vous voyez, catéchisme du Saint-Curé d'Ars. Bon. Saint-Curé d'Ars, même les sermons du Saint-Curé d'Ars, qui ne sont pas ceux qu'il a écrits, c'est ceux qu'on a conservés, ceux qui ont été écrits. Il apprenait par cœur les sermons, il fallait écrire le sermon par cœur. Il fallait écrire le sermon mot à mot sur un papier, un long papier. Et puis le prêtre prenait par cœur, avec le papier devant lui à la chair à prêcher, d'accord. Et le Saint-Curé d'Ars, il faisait comme tout le monde, parce que c'était la coutume à l'époque, et il montait en chair, il oubliait tout. Il oubliait tout ce qu'il avait préparé, et il donnait un sermon qui n'avait rien à voir. Et il a converti des tas de gens, il montait en chair, et parfois, il y a eu des témoins qui l'ont raconté, entre autres l'abbé Taillade, qui était un de ses vicaires, et l'abbé Monin, je crois qu'il s'appelait aussi, un autre prêtre qui a écouté beaucoup des catéchismes de Saint-Curé d'Ars, qui donnait aux enfants, non pas les sermons qu'il prêchait dimanche, qui préparait, mais les catéchismes qu'il donnait aux enfants. Et les parents venaient écouter parce que tellement c'était beau, tellement ça les stimulait. Et plusieurs fois, le Saint-Curé d'Ars montait en chair, et puis il se mettait à pleurer, toutes les larmes de son corps, simplement en disant vous allez tous vous donner, monsieur frère, vous allez tous vous donner si vous ne changez pas de vie, si vous changez pas de vie, vous allez tous vous donner. Il pleurait comme une madeleine. Les gens étaient bouleversés, tout le monde se croyait plutôt confessionnel. Moi, si je m'arrivais à faire ça un dimanche, je ne sais pas si ça marcherait. Vous voyez ? C'est pour ça que, pour revenir au texte de Saint Pédis, vous voyez, le but de l'enseignement, la réforme de vie. Si l'enseignement du catéchisme ne permet pas une réforme de vie, et cherche qu'à chatouiller mes oreilles, se remuer mon corps, ça ne sert à rien. Donc il faut vivre en état de grâce. Vivre en état de grâce. J'ai vu des gens qui connaissaient la catéchisme par cœur, j'en ai rencontré. C'était des jeunes qui connaissaient le catéchisme par cœur parce qu'ils avaient été chez les bonnes sœurs pour les femmes, les filles avaient été chez les frères, et chez les frères des écoles de la fraternité, ils vivaient tous très bien, et ils connaissaient tous très bien leur catéchisme, et ils vivaient comme des païens. Comme des païens, et la jeune fille, je savais qu'elle vivait en concubinage avec le gars, et puis ils se prétendaient catholiques. Ils se prétendaient catholiques. Alors, évidemment, il y a quand même un problème, parce que je me rendais bien compte qu'ils ne communiaient jamais. Ils ne communiaient jamais, et pourquoi ? C'est parce qu'ils vivaient en concubinage. Il y a un concubinage, puis quand je leur disais, mais attendez, vous avez vécu en concubinage pendant combien d'années comme ça? Ah ben on verra plus tard quand on aura fini nos études. Non mais attendez. Et j'arrivais pas à leur faire comprendre. Vous voulez finir vos études, vous finissez vos études, seul, et vous ne mettez pas en ménage. Pas en ménage. Et c'était très difficile parce que c'est une ambiance générale. Moi, c'est la raison principale pour laquelle j'ai quitté la médecine dans laquelle j'étais à la faculté de Timone à Marseille, j'ai quitté la médecine en courant parce que j'étais dans une énorme fac de laquelle il y avait des milliers d'étudiants et tous mes copains de fac, tous, pratiquement sans exception, tous, vivaient en concubinage. Ils étaient deux dans leur chambre universitaire. Un homme, une fille, le gars et une fille, tous. Alors, ils changeaient de fille régulièrement, tous les 6 mois ils changeaient de fille à peu près, mais ils vivaient tous en concubinage. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais toi t'es pas plus malin que les autres. Si tu vis dans un milieu pareil, tu restes dans un milieu pareil, tu te tournes avec des copains qui sont tous comme ça, tu vas faire pareil. Je suis parti en courant, je suis rentré au séminaire, heureusement. Mon seul regret, c'est pas rentrer plus tôt. C'est autre chose. Mais je peux plus rentrer plus tôt, c'est tout. Mais vous voyez, ça, c'est capital à comprendre. Donc, l'enseignement des parents, parce que les premiers catéchistes, c'est quand même les parents, l'enseignement des parents consiste à quoi? Pas simplement à expliquer le catéchisme aux enfants, mais à leur faire vivre, qu'ils vivent dans la vie de tous les jours, leur catéchisme. Et pour ça, il y a une condition à laquelle ils doivent faire aimer le catéchisme. Faire aimer le catéchisme. Est-ce que vous êtes capable, je dis aux parents, est-ce que vous êtes capable d'enseigner le catéchisme de la façon que vos enfants aiment vos cours, aiment le catéchisme? Imaginez un parent qui dise à ses enfants, le dimanche, tout le monde à la messe. À 10h, messe, avec la vite, obligatoire pour tous les enfants. On est famille catholique. On va à la messe le dimanche. Très bien. Et puis, quand je vois les parents, je dis, vous obligez vos enfants à venir à la messe? Ah oui, monsieur l'abbé. Ils sont obligés d'aller à la messe. Oui. Ils aiment la messe? Vous leur avez appris à aimer la messe? Ah ben non. Pareil pour le chapelet. Monsieur l'abbé, dans ma famille, tous les soirs, à 8h du soir, après le repas du soir, tout le monde dit le chapelet, obligatoire pour tous les enfants. Très bien, bravo. Ils connaissent le chapelet. Oui, monsieur l'abbé, ils savent tous très bien dire le chapelet, oui. Ils aiment leur chapelet, vos enfants. Ah ben, monsieur l'abbé, j'en sais rien. Eh ben, commencez par vous renseigner. Et quand vous renseignez un peu, si vous renseignez un peu, vous verrez que vos enfants qui vont à la messe tous les dimanches, parce que vous les obligez à la messe tous les dimanches, vous leur avez appris l'importance de la messe, mais vous avez oublié de leur apprendre comment aimer la messe, ils n'aiment pas la messe, ils n'ont aucune idée quand ils sont à la messe, et que ça se termine le plus vite possible. Bon, comme ces gens qui me disaient, le dimanche on avait plusieurs prêtres, on allait à celui qui prêchait le plus court. Donc il y avait plusieurs sermons, différentes têtes, dans les grandes chapelles avant c'était comme ça, avant Vatican II. Donc on allait à la messe du prêtre qui prêchait le plus court. Comme ça vous pouvez sortir avant. Et quand ils prêchaient trop long, moi j'ai eu ça à la chapelle que je peux nommer, à chapelle de Calais, les jeunes ils sortaient pendant mon sermon, entendre le sermon, ils allaient fumer une cigarette dehors et puis ils revenaient à la fin du sermon, on faisait des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des gens comme ça? Et c'est pareil pour le chapelet. Vous obligez vos enfants à dire le chapelet, très bien, vous avez fait la moitié du travail. Vous obligez vos enfants à assister à la messe du dimanche, très bien, vous avez fait la moitié du travail. C'est la deuxième moitié la plus importante, la deuxième moitié c'est leur faire aimer la messe. Est-ce que vos enfants aiment la messe? Est-ce que vos enfants aiment le chapelet? Rappelez-vous Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait « J'ai appris l'importance de la messe en voyant les larmes que mon père répandait pendant la Sainte Messe qui coulait sur ses joues. » Elle était toute petite, elle avait 3 ou 4 ans, elle voyait son père qui pleurait pendant la Sainte Messe, elle a compris l'importance de la messe. Elle a aimé la messe. Mais c'est pareil, si un enfant, parfois il y a des enfants comme ça, hein, j'en ai vu, hein, des petits enfants de 6 ans, ils disent « Monsieur l'abbé, moi quand je dis le chapelet avec ma famille, vous savez ce que je fais, monsieur l'abbé, je regarde ma maman. Et ma maman, quand je vois, elle ferme les yeux quand elle dit le chapelet, on sent qu'elle met toute son âme dans son chapelet, et ça m'a aidé à comprendre l'importance du chapelet. Cette petite, elle aime le chapelet déjà. Elle va aimer son chapelet parce qu'elle a vu la façon dont sa mère priait le chapelet. C'est pareil pour les époux, parce que le chef de famille, c'est pas la maman, le chef de famille, c'est le papa. Le chef de famille, c'est le papa, donc il faut que le papa donne l'exemple. Et ça, c'est pas facile, hein. Parce que fermer la messe à vos enfants, bon courage. Fermer le chapelet à vos enfants, bon courage. Fermer le catéchisme à vos enfants, bon courage. Et vous voyez, ça, moi, je remercie le bon Dieu. Parce que pour nous, c'est un peu pareil. Hein. D'un certain côté, hein, je veux qu'on fasse une conférence que j'ai déjà faite à certaines personnes. Là, je vous le fais parce que c'est le sujet de ce cours. C'est une chose de connaître la doctrine. Nous, prêtres, on étudie beaucoup. On a beaucoup étudié au séminaire. On a étudié, par exemple, la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, depuis la première page jusqu'à la dernière page. On a tout étudié. On connaissait bien la somme, parce que le Monseigneur Lefebvre tenait à ce qu'on étudie selon les principes de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, selon les principes demandés par le pape Saint Pie X, donc page 10, qu'on a déjà expliqué. Bon. Très bien, mais je connaissais des prêtres qui connaissaient par cœur la somme. Presque. Ils étaient incapables de la faire aimer. Incapable de la faire aimer, incapable d'aimer. Moi, je remercie le bon Dieu d'avoir mis sur ma route Richard Williamson, l'abbé Williamson, qui est devenu aujourd'hui Monseigneur Williamson, qui est un compagnon de séminaire. Il était rentré au séminaire avant moi, donc j'étais au séminaire avec lui comme séminariste. Et lui était séminariste aussi, puis il est devenu prêtre. Et il a été nommé professeur de théologie dogmatique. Et c'est lui qui m'a donné ma théologie dogmatique. Et Monseigneur, à l'époque, il était l'abbé Williamson, c'est lui qui m'a fait aimer Saint Thomas. Il m'a fait aimer la somme. Et en me faisant aimer la somme, il m'a transmis son amour de la somme, parce qu'il a été converti en lisant la somme théologique de saint Thomas. Il m'a transmis son amour de la somme théologique de saint Thomas, son amour de la théologie, son amour de saint Thomas d'Aquin. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que maintenant, ça j'en parle très souvent, les gens me disent « vous parlez tout le temps de saint Thomas ». C'est vrai, mais j'espère que je peux transmettre à mes fidèles l'amour de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Parce que je l'ai reçu de Monseigneur Williamson. De la même façon, c'est le Père Rivière et le Père Bariel, surtout le Père Rivière qui est mort en 74. Et moi, au moment où je suis rentré au séminaire, c'est lui qui m'a prêché les exercices de Saint-Ignace quand j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans et 21 ans, jusqu'au moment où je rentre au séminaire. Tous les ans, j'allais suivre les exercices de Saint-Ignace en Suisse avec le vieux Père Rivière. C'est lui qui m'a fait rentrer au séminaire. Il m'a fait aimer les exercices. Et du coup, quand je suis devenu prêtre, j'ai eu l'occasion de m'engouffrer dans la porte des exercices pour apprendre à les prêcher. J'ai utilisé cette porte et maintenant je les prêche autant aussi souvent que possible. Quand je peux, j'ai prêché, je sais pas combien, 400 fois les exercices de Saint-Ignace et j'ai reçu du séminaire l'amour des exercices de Saint-Ignace comme j'ai reçu de l'abbé Williamson l'amour de la théologie de Saint-Thomas d'Aquin. J'ai reçu du Père Rivière l'amour des exercices de Saint-Ignace et j'ai reçu de Mgr Lefebvre l'amour de l'Église. Et une fois qu'on a reçu cet amour, c'est à nous après de le transmettre. Et j'essaie de transmettre à mes fidèles l'amour de la théologie de saint Thomas d'Aquin, l'amour des exercices de Saint-Ignace, l'amour de la Sainte Messe, l'amour de l'Église que nous a transmis Mgr Lefebvre. Et ça, il faut que les parents comprennent ça. Donc posez-vous la question que les parents qui m'écoutent sur Internet doivent se poser, c'est est-ce que mes enfants aiment la foi catholique? Est-ce qu'ils aiment leur catéchisme? Vous voyez? On le voit très bien, moi j'avoue, même j'ai mes souvenirs d'adolescent quand j'étais à un petit village près d'Auxerre, qui s'appelle Moneto dans l'Yonne, les cours de catéchisme qu'on avait là-bas, c'était nul, absolument nul. Le curé Custonum, c'était son genre. C'est un brave prêtre! Un brave prêtre, mais il n'arrivait pas à nous faire aimer le catéchisme. En tout cas, ce n'est pas lui que j'ai reçu l'amour du catéchisme. Vous voyez? Et c'est une question qui m'a hanté tout le temps. Comment faire aimer le catéchisme à mes fidèles? C'est la première question que j'ai dû me poser comme prêtre. Comment faire aimer le catéchisme à un fidèle? C'est pour ça que la première chose que j'ai faite comme jeune prêtre, faire un catéchisme pour adultes, je vous ai dit. Et j'ai commencé à enseigner le catéchisme pour adultes de façon un peu différente de ce que j'avais peut-être reçu, de ce que faisait un peu beaucoup de prêtres, pour arriver à rendre le catéchisme plaisant, rendre le que les gens tombent littéralement amoureux de leur catéchisme. Et vous voyez, et ça, je l'ai vu, ça m'a énormément aidé après. Et après, quand j'ai commencé, que j'ai pu faire à fond les catéchismes pour adultes, par exemple, quand j'étais à Lille, j'avais 100 adultes qui venaient tous les lundis soirs, je crois. Tous les lundis soirs, il y avait 100 adultes qui venaient sur le cours de catéchisme pour adultes, à la chapelle de Croix dans le Nord, banlieue ouvrière de Nord, de Lille. J'allais, là où j'habitais, je donnais un cours de catéchisme, il y avait 100 personnes qui venaient tous les lundis. Et je vous assure qu'il suivait le cours. Parce que j'avais réfléchi à toutes ces choses-là. Comment rendre le cours intéressant? Comment est-ce que ces gens se disent, chouette, aujourd'hui c'est lundi, on rend le cours de catéchisme de la Bellafite. Et qu'ils aient envie de venir. Plutôt que ces jeunes qui se disent, quel dévain, aujourd'hui c'est dimanche, voilà à la messe. Bon, vous voyez, ça change toute l'ambiance. Et ils venaient au catéchisme. Et même à la fin, j'avais acheté une machine à café pour après le catéchisme. Les gens prenaient le café après le cours. Il fallait pratiquement que je les mette dehors parce qu'ils voulaient plus partir. 10h, 10h, ils étaient encore là parce que tout le monde discutait, etc. C'était excellent, vous voyez. Et ça, c'est capital, capital. Et c'est ce que j'essaie de faire avec le site. Et ma plus belle récompense, c'est ces textes que je reçois. J'en ai encore reçu un hier. Des gens que je connais pas ni d'Ève ni d'Alain, je n'ai jamais vu, je ne les verrai sans doute jamais, qui m'ont dit, monsieur l'abbé, vos cours de doctrine, j'ai commencé à les écouter, c'est magnifique, c'est très intéressant, ça me fait aimer le catéchisme, et maintenant, grâce à vous, eh bien, on a changé complètement de vie. Moi, une fois, j'ai reçu, je vous l'ai déjà dit, mais c'est des choses, ça vous aide à comprendre ce que j'essaie de vous expliquer là. Une dame qui m'écrit, une jeune femme qui m'écrit, que je connais pas, que je n'ai jamais rencontré, je la connais pas. Elle m'a dit, monsieur l'abbé, nous voulons, mon mari et moi, vous remercier, parce que grâce à vous, nous nous sommes mariés. Je dis, mais moi, je ne vous connais pas. Je dis, mais je connais. Je dis, monsieur l'abbé, vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas mon mari. On a écouté tous vos cours. Et c'est à la suite de ces cours qu'on a écoutés, entre autres sur le mariage, qu'on vivait dans le concubinage avec mon concubin. On s'est dit, il faut se marier. Et grâce à vos cours, ça nous a fait comprendre l'importance de trouver un prêtre traditionnel pour se faire former. On est allé chercher un prêtre traditionnel qui habitait pas très loin de chez nous. On est allé le voir. On lui a demandé de nous préparer un mariage. Maintenant, on est mariés, monsieur l'abbé, c'est grâce à vous. Deo gracias. Deo gracias. Et quand j'ai des cours comme ça, des messages comme ça, je suis vraiment à faire pleurer. Des gens qui me disent, monsieur l'abbé, avec la grâce du bon Dieu, utilisant vos cours, ben, monsieur l'abbé, on est sorti du péché, j'ai commencé à comprendre l'importance de la confession, l'importance de la communion, maintenant je fais des centaines de kilomètres pour avoir la messe, parce que vous m'avez fait comprendre, vous m'avez fait aimer mon catéchisme. Ah, Dieu, gracias. Vous voyez, ça c'est très important, mais ce que je vous dis là pour le prêtre, c'est aussi valable, attention, et c'est aussi valable, pour les fidèles, hein. Vous voyez, ce texte de Saint Pédis est tout simple, hein. C'est pas du tout un texte compliqué, mais on voit là, dans ce texte, il est pape, hein. Il est pape Saint Pédis. On voit qu'il a été curé en milieu populaire. Il a été d'abord vicaire à Tombolo, au nord d'Italie, puis curé à Salzano, avant de devenir directeur du séminaire de Trévise, puis ensuite évêque de Mantoue. Donc il est passé par la petite porte, on sent qu'il a compris tout ça. Vous voyez ? Je continue avec le texte de Saint Pédis. Nous croyons qu'il faut en penser autant de ces prêtres qui, pour mettre en lumière les vérités de la religion, composent des ouvrages de grand travail, y méritent les plus beaux éloges. Cependant, combien petit est le nombre de ceux qui étudient ces volumes et en retirent un fruit proportionné au travail des auteurs et à leurs vœux. L'enseignement de la doctrine chrétienne, s'il est bien donné, n'est jamais sans profit pour les auditeurs. Et pour enflammer le zèle des ministres de Dieu, il sera bon de le répéter encore, grand est le nombre, et il grandit tous les jours, de ceux qui ignorent tout, en fait, de religion, ou qui ont de Dieu et de la foi chrétienne une connaissance si insuffisante qu'elle ne les empêche pas, dans le plein jour de la vérité catholique, de vivre à la façon des idolâtres. Combien, hélas, nous ne disons pas d'enfants, mais d'adultes et d'hommes sur le déclin de l'âge, qui ne savent rien des principaux mystères de la foi et qui, entendant nommer le Christ, répondent « Qui est-il pour que je croie en lui ?» Vous voyez, Saint Pédis écrit ça en 1905. Donc en 1905, ils disent combien est nombreux le nombre de gens, de catholiques, dans le plein jour de la vérité catholique, qui vivent comme des à la façon des idolâtres. Vous vous rendez compte, ce que dit Saint-Pélis, c'est fort, hein? Les gens vivent comme des idolâtres alors qu'ils se prétendent catholiques. De là vient qu'ils ne se font pas un, qu'ils ne se font pas un reproche de susciter, d'entretenir des haines, d'établir des contrats les plus injustes, de se livrer à des spéculations malhonnêtes, d'accaparer le bien d'autrui par une lourde usure et autres méfaits pareils. En outre, ignorant la loi du Christ qui ne condamne pas simplement les actes honteux, mais des fois même d'y penser volontairement ou de les désirer, il se peut bien que, pour une raison ou pour une autre, ils se gardent des plaisirs coupables, mais ils accueilleront sans le moindre scrupule les pensées les plus impures, multipliant les iniquités au-delà du nombre de leurs cheveux. Et ces choses ne se rencontrent, disons-le encore une fois, non pas seulement dans les campagnes ou chez le pauvre peuple, mais aussi et peut-être plus fréquemment chez les hommes d'une classe plus élevée, voire même chez ceux que la science gonfle, qui, fort d'une vaine érudition, croient pouvoir se moquer de la religion et blasphèment tout ce qu'ils ignorent. Oui. Et c'est ça qui a provoqué la Révolution française. C'est ça qui a provoqué la Révolution française. Parce que malheureusement, il faut bien avouer ce qui est, avant la Révolution française, c'est 1789, et la deuxième partie du 18e siècle, surtout dans le haut clergé, moins dans le bas clergé. Et à ce moment-là, il y avait cette distinction entre le haut clergé et le bas clergé. Le bas clergé dans les campagnes, il y a eu des prêtres admirables qui ont fait un travail extraordinaire. L'exemple typique, c'est Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Donc ils ont fait le Saint-Curé d'Ars, c'était pareil, c'était cette même époque. Le Saint-Curé d'Ars, il est arrivé juste ça, à peu près la Révolution, quoi, ou pendant la Révolution. Donc ils ont été le bas clergé a fait un travail extraordinaire, mais dans le haut clergé, il y a eu beaucoup de catastrophes. Et c'est pour ça que les évêques apostats pendant la Révolution, après la Révolution, quand ils ont essayé d'imposer la séparation entre l'Église et l'État, il y a eu pas mal d'évêques apostats. Le plus connu, c'était Talleyrand, un évêque apostat. Mais il y a eu peu de prêtres apostats dans le bas clergé, très peu. Eux, ils sont morts martyrs. Hein. Ils sont morts martyrs, vous voyez. Je pense que ça c'est très important, vous voyez. Donc il faut vraiment demander cette grâce, parce que cette encyclique sur l'enseignement de la doctrine chrétienne, elle est pour tous ceux qui sont éducateurs. Les parents sont des éducateurs. Posez-vous la question que vous devez vous poser, c'est: est-ce que dans 10 ans, mes enfants ont conservé la foi? Je vais donner un exemple, ce vieux prêtre qui me disait, les larmes aux yeux, me donnait l'abbé, je baptise des futurs apostats. Je baptise des bébés, je sais que dans 18 ans, ils seront tous des apostats. Un autre exemple que j'ai déjà donné, je ne sais pas si je l'ai donné dans ce cours, je vais le donner maintenant parce que c'est un exemple qui m'a marqué. Il y a parfois des exemples dans l'apostolat qui marquent. Un père de famille que je connaissais, qui perd son fils, qui était en première ou en terminale dans l'école de Camblin-l'Abbé, dans le nord de la France, près d'Arras. Moi, j'étais professeur dans cette école. Tout à fait au début de mon sacerdoce, c'était en 60, je sais plus quand c'était ça, tout à fait au début de mon sacerdoce, bon, avant que je reparte aux États-Unis. Et l'enfant qui était un adolescent, il avait 17-18 ans, a eu une pneumopathie avec une septicémie, il est mort en quelques jours. Mort à 17 ans, 18 ans, c'est terrible. Il est mort à 17 ans, 18 ans. Avant de mourir, il s'est vu mourir, il a pu faire une confession générale de toute sa vie, il a reçu l'extrême onction, il a reçu le viatique et il est mort. Et son père m'a dit, j'ai jamais oublié ça, il m'a dit, monsieur l'abbé, je remercie le bon Dieu qu'il ait repris mon fils, parce que je connaissais mon fils. J'aimais mon fils parce que c'était mon fils, mais je savais très bien que mon fils avait un cœur loin du bon Dieu. Il était dans une école traditionnelle, son cœur était loin de Dieu. Et je savais très bien que mon fils n'attendait qu'une seule chose, c'est de passer son bac, se retrouver libre comme l'air, et pouvoir faire n'importe quoi de sa vie, qu'il allait tout envoyer promener. Je savais qu'il le ferait. Et le bon Dieu a eu pitié de lui, lui a envoyé cette maladie épouvantable, il est mort en quelques jours, mais avant de mourir, il a pu faire une confession générale toute sa vie, il a reçu l'extrême onction, il a reçu le viatique, et je sais qu'il est sauvé grâce à sa maladie. Ouais, moi j'en pleurais quand il m'a dit ça. Il est très émouvant. Vous voyez, c'est exactement ça. Vous voyez, Et donc, une question que les parents qui m'écoutent sur Internet, il y a 1000 personnes maintenant qui écoutent ces cours sur Internet, posez-vous cette question, est-ce que mes enfants sont en état de grâce? Est-ce que j'ai tout fait pour que mes enfants soient en état de grâce? Est-ce que j'ai tout fait pour que mes enfants aiment la confession, aiment aller à la messe, aiment étudier leur catéchisme? Oui, c'est ça qu'il faut quand on voit le temps perdu, par exemple, même dans les milieux catholiques, par des gens qui sont tout le temps en train de... Par exemple, le temps qu'ils perdent avec des jeux vidéo, des machins comme ça, c'est épouvantable. Ils n'ont pas le temps d'étudier leur foi, ils ne connaissent pas leur foi. Vous voyez, j'ai des gens qui... Des fidèles de la tradition qui habitent tout proche, ils ne viennent même plus à la messe ici, plus chez moi depuis longtemps d'ailleurs, mais je sais qu'ils n'écoutent même pas mes cours. Ils pourraient écouter les cours, ils pourraient écouter les sermons, ils ne vont plus à la messe. Ils vivent comme des catholiques pratiquants, non pratiquants malheureusement. Ils n'écoutent même plus mes cours. Et je dis, oh, j'en ai pas besoin, moi je connais mon catéchisme. Oui, tu parles. Ils connaissent leur catéchisme d'enfance, peut-être, mais est-ce qu'ils vivent comme des catholiques? Ils ne vont même plus à la messe le dimanche. Quant aux autres qui nous ont quittés, ils vont à la messe chez les schismatiques qui refusent catégoriquement d'obéir aux ordres du pape Pie XII et qui se prétendent catholiques traditionnels en même temps, en fait, n'importe quoi. Vous voyez, pour ça, relisez ce texte. C'est un texte très facile à lire, contrairement au texte de Pachandi de Saint Pie X sur le compte moderniste. Ça, c'est un texte facile, aucune excuse. Tirez le papier ou prenez-le sur Internet. Lisez-le sur Internet, lisez-le sur le site d'Anne Marie que j'ai, il y est, et étudiez ces textes, vous voyez. Je continue avec le texte de Saint Pie X. Si l'on ne saurait attendre une moisson d'une terre qui n'a pas encore reçu de semences, comment espérer des générations ayant de bonnes mœurs si elles n'ont pas été à temps instruites dans la doctrine chrétienne? Vous voyez, et ça, c'est encore un point très important, c'est-à-dire que je ne sais plus qui a dit ça. Prêtre très saint, peuple saint. À prêtre saint, peuple moyen. À prêtre moyen, peuple faible. À prêtre faible, peuple ignare. À prêtre ignare, peuple apostat. Mais chaque fois, on descend d'un cran. C'est la locomotive, hein. C'est lui qui tire les wagons, en quelque sorte. Donc le prêtre doit donner l'exemple. C'est pour ça que le prêtre doit prier énormément, et j'ai bien du travail à faire aussi de ce côté-là, hein, parce que je suis pas un saint, loin de là. Le prêtre doit prier, le prêtre doit faire pénitence, justement pour tirer les wagons, attirer les gens vers le bon Dieu. Mais et ça, c'est le drame, si vous voulez, le drame des prêtres des années 60. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. J'étais un adolescent à l'époque, mais le drame des années 60, c'était ça. Ces prêtres qui étaient incapables de transmettre l'amour du bon Dieu. Moi, je me rappelle les cours de religion que j'avais, que je suivais volontairement quand j'étais au lycée Jacques Lamieux à Auxerre, quand j'avais seconde première terminale, et on avait des cours avec un aumônier qui venait, mais on parlait tout sauf de Dieu, on parlait tout sauf du catéchisme. Premier jour de mes cours, moi, je suis allé, au début j'allais, et c'est ce qu'ils nous demandaient, c'est « De quoi voulez-vous parler ?» De quoi voulez-vous parler? Il était incapable de donner l'amour de sa science. On sent que le catéchisme s'en foutait. Alors il nous parlait de l'islam, il nous parlait du bouddhisme, etc. C'est comme ça qu'on a un bon professeur. Imaginez un bon professeur de maths. Comment on voit qu'un bon professeur de maths? Il est capable de faire aimer les mathématiques à tous ceux qui dans la classe sont nuls en maths. Là c'est un bon prof de maths. Un bon professeur d'histoire, quelqu'un qui est fait... qui est capable d'intéresser à l'histoire de France des gens qui sont absolument pas intéressés par l'histoire de France. Comment on peut voir un bon prof de philosophie, quelqu'un qui est capable de faire comprendre la vraie philosophie à quelqu'un qui est pas intéressé du tout? Vous voyez? Et tout ça c'est très important. Vous voyez? Donc il faut Saint Pie X insiste. Comment voulez-vous espérer des générations avec des bonnes mœurs, c'est-à-dire qui vivent selon la loi du bon Dieu, qui vivent selon le commandement, s'ils n'ont pas été à temps instruits dans la doctrine chrétienne? Si ces générations n'ont pas été instruites dans la doctrine chrétienne. Vous voyez? Et moi, je me rappelle quand je suis allé au Gabon prêcher les exercices Saint-Ignace au Gabon, c'est des années après que Mgr Lefebvre avait quitté le Gabon. Je voyais des personnes âgées qui me parlaient de Mgr Lefebvre avec les larmes dans les yeux. Alors qu'il est parti depuis des années et des années. Et quand il a dû quitter le Gabon, il disait, on a perdu notre père. Et des années et des années après, moi je suis arrivé des années et des années après, comme jeune prêtre, et il nous parlait de Mgr Lefebvre, parce que Mgr Lefebvre avait une façon d'expliquer le catéchisme, tout simple, une façon de célébrer la messe aussi, ça j'ai appris aussi beaucoup en voyant Mgr Lefebvre célébrer la Sainte Messe. C'est en voyant Mgr Lefebvre célébrer la Sainte Messe que j'ai appris l'importance de la messe, vous voyez. Mgr Lefebvre servait une messe de façon toute simple, sans chichi du tout, de façon très simple, mais en même temps on voyait qu'il y mettait tout son cœur, quoi. Comment voulez-vous, quand on voit les messes modernes, comment voulez-vous que les jeunes qui assistent à cette messe se rendent compte que c'est quelque chose de sacré? Oui, on peut donner d'autres exemples pour vous aider à comprendre, parce que c'est des points qui sont importants. Comment voulez-vous, par exemple, en France, qu'un jeune Français ait une admiration pour le président de la République? Une admiration quelconque pour le président de la République, pour Macron. Quand on voit la façon dont il agit, quand on voit ça, son comportement pendant les fêtes de la musique à l'Élysée, quand on voit ce qu'il fait partout en France, son dédain pour la famille, son dédain pour les traditions, comment voulez-vous que les jeunes aient un peu de respect pour leur chef d'État? Par contre, quand vous voyez, j'ai parlé avec des Russes, il faut les voir parler, ces jeunes Russes, ces moins jeunes Russes, du président Poutine, hein. Alors, Poutine, c'est un tsar, c'est leur chef. Ils ont un respect pour lui. Ça ne veut pas dire que Poutine soit un saint, bien sûr que non. Mais ils ont un chef pour lui, parce que Poutine, il aime son pays, et il essaie de le protéger, de ce qu'il fait actuellement, pour protéger son pays, empêcher justement l'OTAN de détruire complètement la Russie. La Russie, vous voyez? Et c'est ça dont on a besoin. Enseignez la doctrine à vos enfants, de telle façon que vos enfants aime le bon Dieu, voyez. Je reprends le texte de Saint Pilis. De là, nous devons conclure que si la foi c'est un languide de nos jours, il parle en 1905. Si la foi c'est un languide de nos jours, au point d'être presque mourante chez beaucoup, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui en 2024? Si la foi c'est un languide de nos jours, au point d'être presque mourante chez beaucoup, c'est que le devoir de l'instruction religieuse est accompli trop négligemment ou complètement omis. On n'enseigne plus la doctrine chrétienne, d'où le titre de cette encyclique, l'enseignement de la doctrine chrétienne. Car on aurait tort, pour se donner un semblant d'excuse, de dire que la foi nous est accordée en don gratuit et conférée à chacun dans le saint baptême. Sans doute, nous tous qui sommes baptisés en Jésus-Christ, nous avons en nous la foi infuse. Mais cette semence divine ne monte pas, ne pousse pas de fortes branches si elle est abandonnée à elle-même et réduite à n'agir que par une sorte de vertu innée. Quand un jardinier veut que les arbres donnent du fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le sécateur, il coupe les branches. Hein, Il taille les branches et l'arbre, ça doit faire mal quand on taille ses branches. Il doit crier l'arbre. Et l'arbre, il crie littéralement parce qu'on lui taille ses branches. Donc, le jardinier taille les branches avec une science certaine de la façon de tailler les branches pour que les branches donnent plus de fruits. C'est pareil avec l'image de la vigne. Les ceps de vigne, il faut tailler les ceps, il faut tailler les rameaux de vigne. Les rameaux de vigne, il y a un nom pour les rameaux de vigne, je ne sais plus comment c'est en français. Bon. Et on taille les rameaux de vigne d'une certaine façon, en fonction du type de vin que doit donner le rameau, afin qu'il donne des bonnes grappes. Et après, on va enlever les feuilles, par exemple, à certaines époques de l'année, pour qu'il y ait plus de soleil qui tape directement sur les grappes, quoi, pour qu'elles aient plus de soleil, qu'elles maturent plus abondamment, plus facilement, vous voyez, des choses comme ça. C'est pareil pour nous, vous voyez. Donc, il faut faire attention. Nos enfants c'est une cire malléable qui est capable de prendre le bon et le mauvais. Oui. Et vos enfants ne sont pas des petites merveilles irresponsables. Hein. Il faut les éduquer, attention, pour justement leur donner l'amour du bon Dieu. Et ce n'est pas facile, c'est peut-être le plus difficile. Et donc il faut que les parents donnent cet exemple aux enfants. Moi je vois très bien dans les familles modernes, pourquoi il y a des divorces partout. Ben, la plupart du temps il y a des divorces partout, parce que ces enfants viennent de familles divorcées. Ils viennent de familles éclatées, évidemment, ils vont fonder une famille avec les mêmes conditions. Vous voyez? Au contraire, quand les familles sont capables de donner l'amour de la véritable famille catholique à leurs enfants, les enfants vont faire attention. Moi, je suis très ému quand je vois, par exemple, des jeunes de 30 ans, j'ai eu beaucoup de cas comme ça ces derniers temps, des jeunes qui ont la trentaine, qui me disent, vous savez, j'ai fait du n'importe quoi jusqu'à présent. J'ai fait du n'importe quoi, j'ai vécu n'importe comment, j'ai vécu dans le péché complet. Monsieur l'abbé, maintenant je suis venu vous voir parce que je vais faire une vraie confession générale. Vous allez m'aider à faire une vraie confession générale et maintenant je veux changer de vie pour construire quelque chose. La seule chose que j'ai fait, je me suis amusé jusqu'à présent. J'arrive à 30 ans, j'ai gaspillé 30 ans de ma vie, maintenant je veux construire quelque chose de stable. Monsieur l'abbé, vous allez recevoir ma confession générale, m'aider à faire une bonne confession générale, recevoir ma confession générale et après vous allez m'aider pour que je puisse commencer à construire quelque chose. Je veux fonder une vraie famille chrétienne. Et ils me disent, monsieur l'abbé, maintenant, moi, je suis venu vous voir parce que vous m'aidiez justement à trouver une bonne épouse. Bon, le problème, c'est que les bonnes épouses ne sont pas cachées dans ma poche, hein. C'est pas évident à trouver. Bon. Mais j'ai de plus en plus des adultes qui ont la trentaine, hein. Donc c'est plus des gamins, c'est plus des adolescents, c'est des jeunes adultes, on pourrait dire. Et qui me disent, monsieur l'abbé, aidez-moi à trouver une bonne épouse. Je veux trouver une bonne épouse parce que je commence à me rendre compte à quel point c'est important pour pouvoir transmettre. Et c'est terrible d'arriver, des jeunes qui arrivent à l'âge adulte, puis à l'âge, ils arrivent à 60, 70 ans, et quand on leur dit, qu'est-ce que vous avez à transmettre? Rien. Vous avez ces organisations maintenant, ces groupes qui s'appellent les 4B, ça vient du Japon. J'ai reçu un article là-dessus, c'était très intéressant.
4B,
c'est ça, parce qu'il y a 4 mots japonais. Et 4B, c'est des associations de jeunes filles, de jeunes femmes qui s'engagent à ne jamais avoir d'enfants. Pour sauver la planète, pour diminuer l'empreinte carbone, comme ils disent. Donc on n'aura pas d'enfants. Parce que ces 4 mots en japonais, j'ai oublié les mots, qui veulent dire liberté, liberté, liberté. Donc je fais ce que je veux et je ne veux surtout pas avoir d'enfants. Hein? Donc on prend tous les moyens pour ne pas avoir d'enfants. Et c'est terrible parce que maintenant, c'est un pays qui va droit dans le mur. Droit dans le mur, et ils se rendent bien compte que dans 50 ans ou 60 ans, pratiquement le Japon aura perdu la moitié de sa population, si on continue comme ça, et dans un siècle, il n'y aura plus de Japon. Et ça, c'est une chose qui m'a frappé, justement, entre autres chez Poutine. Poutine vient d'interdire ce mouvement en Russie. Parce que ce mouvement commence à faire des émules aux États-Unis, évidemment, et ce mouvement a essayé de pénétrer en Russie, et Poutine a fait passer une loi à la Douma, russe, pour interdire ce mouvement en Russie, parce qu'il ne veut pas que ce genre de publicité passe en Russie pour pousser les jeunes familles à ne pas avoir d'enfants. Lui, il fait le contraire. Et il vient de rétablir un ancien prix d'avant pour les mères de famille qui ont 10 enfants au moins, au plus. Donc les mères de famille qui ont 10 enfants ou plus,
yes. Il y a
10 enfants ou plus, les mères de famille qui ont 10 enfants ou plus, ont un prix, en espèce dont j'ai oublié le nom, un prix russe, qu'il a pour les féliciter d'avoir donné 10 enfants au peuple russe. Et je ne me rappelle plus, mais c'est une somme importante, je ne vais pas vous dire des bêtises, mais si mes souvenirs sont exacts, c'était un don important en roubles pour les remercier d'avoir accepté d'avoir des enfants. En France, on a droit à la mur tout ça, parce que la plupart des gens, avant, il y a encore 20 ans, les jeunes filles athées ou modernes voulaient un ou deux enfants, et bien c'est tout. Elles voulaient encore se marier, avoir un ou deux enfants, pas plus. Maintenant, deuxième étape, elles voulaient plus d'enfants du tout. Et maintenant, la troisième étape, c'est on ne veut pas d'enfants et on ne veut pas se marier. Pas de mari, pas d'enfants. On veut un chat, des chats, on ne veut pas d'enfants, pas de mari. Mettons, on vit n'importe comment, donc on va faire accumuler les boîtes de nuit et faire du n'importe quoi, mais on ne veut pas d'enfants et pas de mari, on veut être libre. Et on va droit dans le mur comme ça. Les pays sont en train de s'écrouler. Heureusement qu'il y a des chefs d'État, entre autres en Afrique, qui ont dit ces idées-là, on n'en veut pas dans nos pays. Hein. On n'en veut pas dans nos pays. Ça va avec la culture woke, avec la contre-culture woke qui justement veut la destruction complète de la famille. Vous voyez ? Ce sont des choses. C'est une chose importante. Donc la foi, c'est un languier de nos jours, dit Saint Pédis, au point d'être presque mourante chez beaucoup, parce que le devoir de l'instruction religieuse est accompli trop négligemment, complètement omis, d'abord par les parents, et ensuite par les prêtres. D'accord ? Il existe aussi dans l'homme, dès qu'il vit, une intelligence. Elle a pourtant besoin de la parole maternelle qui l'éveille en quelque sorte et la met, comme on dit, en action. Il n'en arrive pas autrement aux chrétiens qui, en renaissant, dit saint Bénice, dans l'eau et le Saint-Esprit, portent désormais en lui la foi. Il lui faut néanmoins l'enseignement de l'Église pour que cette foi puisse s'alimenter, grandir et fructifier. C'est en ce sens que l'apôtre y disait « La foi vient de la prédication entendue et la prédication se fait par la parole du Christ ». Et pour montrer la nécessité de l'enseignement, il ajoute « Comment entendront-ils sans un prédicateur ?» Si les explications qui précèdent démontrent de quelle importance est l'instruction religieuse du peuple, nous devons veiller avec le plus grand soin, dit le pape saint Pilice, à ce que l'enseignement de la doctrine chrétienne et l'institution utile entre toutes pour la gloire de Dieu et le salut des âmes reste partout en vigueur ou s'il est négligé, quelque part soit restauré. Enseignez le catéchisme à vos enfants, le vrai. Prenez le catéchisme de Saint-Pédis, prenez le catéchisme du Concile de Trente, travaillez vos cours. C'est pour ça que j'ai démarré le site. Ma plus grande récompense, c'est de voir de plus en plus de monde qui écoute ces conférences. J'en suis ravi parce que du coup, la bonne graine se transmet. Je ne sais pas moi d'où sortent, encore une fois, j'ai souvent dit, je ne sais pas d'où sortent ces 1000 personnes qui écoutent les cours de doctrine du mercredi soir. J'en sais rien. Mais l'important, c'est que ça se diffuse. Je ne sais pas d'où sortent ces 1000 personnes, ces 1000 familles.
Tu sais qu'il y en a 1000.
Parce qu'il y a des compteurs. Il y a des compteurs sur les sites. Je sais qu'il y a pratiquement 1000 familles maintenant qui se collectent pour la messe du dimanche. D'où sortent ces familles? Moi, j'en sais strictement rien. Des gens que je ne connais pas. Mais Deo Gratias, du coup, ben, ça porte fruit, c'est la graine qui... Moi, j'ai planté un petit grain de blé dans le sillon, j'ai recouvert de terre, et puis après, c'est mon Dieu qui fait le travail. Et puis, il fait germer la graine va donner une plante, la plante va donner un épi, l'épi va mûrir, et ça va donner du sang pour un. Rappelez-vous la parabole des talents, c'est un peu ça. Bon, ma grande consolation, elle est là. Vous voyez? Et là, je me rends compte, encore une fois, avec des comment le bon Dieu se sert, si vous voulez, du prêtre comme d'un instrument pour ramener les gens à lui. Je peux vous donner des exemples. J'en ai vu dans ma vie de prêtre. Un exemple que j'ai déjà donné, c'est en Pennsylvanie aux États-Unis. Un monsieur qui a aussi été ingénieur. Il avait une grosse famille. Et puis, il avait une fuite d'eau qu'il n'arrivait pas à réparer. Parce qu'il fallait un matériel un peu spécial, il n'arrivait pas à réparer. Il appelle un plombier. Et le plombier est venu un soir pour réparer la fuite d'eau. Bon. Et donc le papa qui était là, qui était pas connaissant, il connaissait pas grand chose dans la plomberie, donc il a fait venir un plombier. Le plombier répare la fuite d'eau, le papa était là, discute un peu avec lui. Et puis à un moment, le papa dit au plombier, bon, je vous laisse finir tout seul, parce que c'est l'heure du chapelet, et on est dans la pièce à côté, on va dire chapelet avec les enfants et mon épouse. Et puis quand vous avez fini, ben vous venez frapper à la porte, et puis je viendrai vous régler pour ce que vous avez fait. Et il est allé dire le chapelet, et il a laissé la porte ouverte. Et le plombier a terminé son travail, et il a entendu ce chapelet. Le père de famille, la mère de famille, et tous les enfants, il y avait 7 ou 8 enfants, à genoux en train de dire le chapelet. Ça l'a bouleversé. D'un seul coup, il s'est rappelé le Je vous salue Marie, le Notre Père qu'il avait appris comme gamin. Il s'est rappelé le Notre Père, le Je vous salue Marie qu'il avait appris comme gamin parce que le plombier était catholique. Et puis il a fini son travail, il a frappé à la porte et il a dit au papa, est-ce que je peux me joindre à vous pour la fin du chapelet? Il s'est mis à genoux et il a fini le chapelet avec les enfants. C'était le début de sa conversion. Il s'est converti comme ça. Un autre exemple que je peux vous donner, un exemple qui date aussi, je vais donner le nom parce que peut-être que ces personnes écoutent le cours, je ne sais pas, mais vous y êtes pour quelque chose, maman. Bon, il y a un monsieur, ma vieille maman, en 94 ans, donc il y a des dames envoyées par la DMR qui viennent tous les jours pour donner la douche à ma vieille maman. Bon, très bien. Et à un moment, il y a un monsieur qui était venu pour la première fois et qui est venu donner la douche à maman. Bon, très bien, et puis l'aider à s'habiller, fait son travail l'aide familiale, voilà, bon. Et il m'a vu en soutane. Bon. Après, il a parlé à quelqu'un d'autre qui me connaissait, qui était dans la maison, qui était maman aussi, qui était une de mes fidèles. Eh bien, ça commençait à travailler. Il a vu le prêtre en soutane, il a vu, il s'est rendu compte qu'il y avait un petit oratoire dans la maison. Résultat des courses, 10 jours plus tard, il me téléphone en me disant « Mon père, est-ce que je pourrais me confesser ?» J'ai dit « Mais bien sûr. » J'ai pris rendez-vous avec lui. Il a vu ce qu'on faisait un matin.
Hein?
Il a vu ce qu'on faisait un matin. À 8h moins là, à 8h, il assistait à la messe. Il communiait à la messe. Et maintenant, il m'a dit qu'il allait venir à la messe pour la première fois dimanche prochain, à la messe chez nous à Tamis. Oui. Ben, Deo gracias. Remercions le bon Dieu. Oui, des choses comme ça. Ce travail apostolique qui a été préparé par votre attitude, maman, par l'attitude d'autres personnes qui étaient dans la maison. Tous ces gens ont travaillé dessus. Le prêtre est arrivé après pour mettre le point d'or parce que c'est son boulot. Ça aide les gens à avoir une personne qui a retrouvé le contact avec la confession, qui a retrouvé le contact avec la messe. Il m'a avoué à ce moment-là qu'il venait d'une famille très catholique. Et, Deo gracias. S'il commence à venir comme ça à la messe, tant mieux. Autre exemple. Un ouvrier qui est venu dans les travaux de la chapelle avant de terminer la chapelle, on a dû faire venir un ouvrier pour vérifier l'état des charpentes. Bon, il fallait, donc il a mis des échafaudages pour vérifier un peu les charpentes, il faut mettre des produits pour empêcher les insectes de rentrer dans ces xylophènes, de rentrer dans les charpentes, tout casser. Donc, il a trouvé la chapelle déjà très belle, elle était pas finie, loin de là. Et puis il a dit, je vais venir, parce qu'il était dans le boulot, dans le métier. C'était son métier, c'était de traiter les charpentes. Il dit, bon, je viens la semaine prochaine avec un copain et on va vous traiter les charpentes. Et puis, ça sera gratuit.
Hein?
Ça sera gratuit pour vous. Mais merci, monsieur. Résultat des courses. Quelques mois plus tard, mes frères, retraite. Il est sur la retraite avec moi, il n'était même pas chrétien. Même pas baptisé, il est venu sur la retraite. Maintenant, il vient à la messe souvent le dimanche. Il m'a amené il commence à amener sa famille. Il n'a pas compris la décision d'être baptisé parce que j'attends que ça vienne de lui et pas de moi. Il y a tout un travail qui se fait. Il a vu la charité qui règne maintenant dans la paroisse parce qu'il y a une charité extraordinaire dans un petit groupe de paroissiens ici. Je remercie tous ces paroissiens qui font un effort pour accueillir les nouveaux, etc. Il y a vraiment la charité maintenant qui existe, parce que tous ceux qui n'avaient pas compris du tout ce que c'était que la charité chrétienne sont tous partis, et du coup on a la paix d'un certain côté, et ceux qui viennent maintenant, ils viennent pour vraiment adorer le bon Dieu et pour pratiquer cette charité chrétienne. Et du coup, ben, on a plein de nouveaux fidèles. Maintenant le dimanche, on a, avant on avait 15, 20, 25 personnes, maintenant on a entre 25, 30 personnes, 35 personnes, parfois 40 personnes le dimanche. Petit à petit, c'est du nouveau. Et c'est des gens qui viennent de milieux non catholiques, des gens qui viennent et qui, avec la grâce du bon Dieu, se convertissent, vous voyez. Donc il faut vraiment remercier le bon Dieu pour toutes ces choses-là, vous voyez. Ça, j'insiste auprès des fidèles qui m'écoutent là sur Internet, sur l'importance de cette encyclique qui est très peu connue, hein, Servo Nihilis. Bon, j'ai arrêté là parce que je me rends compte que je suis en train de passer l'heure là. Donc, avec la grâce du bon Dieu, il y aura encore cours mercredi prochain. Après, il y aura encore de nouveau une semaine où je pars dans le Nord, pour le mois de décembre. On est combien ? On est le 27 aujourd'hui, je crois. Donc, prochain cours, si Dieu veut, mercredi prochain. Voilà, nous allons terminer par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.